Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on déguste spécial aujourd'hui, puisque nous vous parlons depuis le Flamand, institution montalbanaise s'il en est. Depuis 32 ans, Gérard Soligon mène sa barque de ce café qui fait la vedette à toutes les bières belges. Je crois
pas que...
Et pas que, mais c'est en tout cas l'axe central, le produit central du café flamand. Gérard nous dira comment il y a 32 ans il a eu l'idée de ce bar et comment il fait pour continuer de le faire vivre 32 ans après. Quand je dis Gérard nous dira, il le dira à Pascal Olivier. Salut Pascal.
Salut tout le monde.
Il le dira à Christophe Bory. Salut.
Bonsoir.
À Gaël Stenbach.
Bonsoir.
À Georges Bonfils.
Bonjour.
Et il le dira avec la complicité de Jackie Courmont et de Grégory Robert de la bière locale de
Bonsoir.
La française, la Ocale.
Bonsoir. Bonsoir.
Bonjour tout le monde. Salut Gérard.
Et bonjour.
Et merci de nous accueillir ici.
Ça fait plaisir de vous voir ici.
Moi aussi, je suis très content et même un peu ému finalement de faire cette émission dans ce bar qui m'a vu en culotte courte.
Surtout
à l'époque.
Que je t'ai connu très très petit, très jeune.
Ouais.
Avec tes frères,
ouais.
Ta mère.
Et toi, à l'époque, t'étais pas blanc, t'étais blond.
Et ouais, j'étais blond, blond frisé, ouais.
Merci de nous accueillir. On commence par trinquer avec une bouteille, une chope de bière. C'est de la Ocale pour commencer. C'est qu'est-ce qu'on déguste, et ça commence comme ça.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien. Le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse, comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous, y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs féroles en caracolant de Prosit en scroll. Ça sent la bière de Londres. C'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. Plein d'horizons à vous rendre fou, mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux, on fait des montagnes avec ce qu'on peut.
Un morceau de Circos Pince pour commencer ce Qu'est-ce qu'on déguste spécial bière. Il est sorti en 1968, c'était le grand Jacques Brel, bien sûr, avec la bière.
Bravo, c'était une bonne idée, Christophe, pour commencer. Alors, donc, qu'est-ce qu'on déguste depuis le Flamand ? À Montauban, on est au 8 rue de la République. Et c'est là, Gérard, qu'il y a 32 ans, t'as ouvert pour la première fois le Flamand. Mais ça s'appelait pas le Flamand au tout début, si ?
Non, ça s'appelait Sans Souci.
Ouais.
Sans Souci, ça commençait bien.
Ouais, ça a dû t'en créer quelques-uns, quand même.
Un petit peu,
au fil des années.
Petit peu, ouais, parce qu'on a fait bouger un petit peu le centre, hein, ouais. Centre-ville. Et c'est vrai que quand tu fais bouger un petit peu un endroit, automatiquement, il y a des contre-courants, quoi.
Ouais, ouais. Bon, alors, il y a 32 ans, on est quand ? On est en 1980
80.
En 80.
80.
L'idée,
17 juin 80.
L'idée, qu'est-ce qui t'a amené sur le terrain de la bière belge, justement à l'époque.
Ouais, disons que on connaissait la bière, quoi. On était quelques potes là, on faisait pas mal de soirées bières, hein. Et plus particulièrement des bières qui ont du goût, qui ont de la saveur.
C'était pas facile à trouver en plus.
Non.
Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe où, on peut boire des bonnes bières, mais en 80, pour trouver une bonne bière quelque part, c'était la croix et la bannière.
80, c'était difficile, ouais. Mais bon. Moi, j'avais un pote de Paris qui avait pas mal voyagé, qui connaissait. Donc, quand on est gamin, on fait beaucoup de soirées à base de bière. Hein. Donc, la Valstar, ça va un peu, quoi.
On est noyé avant d'être sous.
Donc, on a commencé comme ça. Et après, quand on a voulu monter un bar, c'est vrai que sur Montauban, il n'y avait pas beaucoup d'animation dans la soirée, quoi. Donc... On s'est dit, on va monter un bar plus ou moins musical, avec de la bonne musique, du bon rock, comme CFM. Hein, c'est ouais. Le faire.
Ouais.
Et puis, il fallait chercher le produit. Le produit, c'était la bière, quoi. Donc, on est parti en Belgique. On a fait le tour de la Belgique, le tour des abbayes,
des brasseries. Vous deviez dans un drôle d'état, parce que pour goûter tout ça.
Ça fait des dégustations.
Ça va, hein.
Ouais.
Mais il n'y avait pas le Côte-Est à l'époque.
T'es pas belge, toi. T'as pas du tout.
Je suis natif d'ici. Moi.
Ouais.
Non. Mais bon, donc à chaque fois qu'on buvait une bière qui était bonne, on achetait la bouteille, puis on la ramenait tout ça en France. Et puis, on a cherché longtemps un distributeur.
Ouais, parce que c'est ça, les circuits de distribution des bières comme ça, là, surtout quand tu vas les choisir toi-même, c'est un peu compliqué de se faire livrer.
Ouais, tu en as dans le nord, quoi. Au nord, côté de Lille, tout ça, tu peux trouver. Mais dans le sud, ici, là, c'était pas évident. Donc, on a trouvé un distributeur du nord qui nous faisait des camions, qui nous livrait tous les 15 jours, à peu près.
Tu as commencé avec combien de bières à la carte ?
On avait trois pressions, je crois. Blonde, brune, deux blondes et une brune. Et puis on avait quoi, une cinquantaine de bières bouteilles.
Hein. Ouais, quand même, déjà 50.
Ouais, on avait commencé gros. Ouais. On a commencé déjà pas mal. Quoi. Le problème, c'est que pour stocker, il fallait stocker 30 ou 40 caisses de bières, pas par marque, mais pas mal. Quoi. Autrement, on ne pouvait pas trouver de camion qui nous faisait le transport. Donc il a fallu stocker pas mal quelques bières et puis il fallait les vendre après. Quoi.
Et puis après il fallait les vendre parce que c'était pas forcément c'est pas le produit
pas
ici non, quand même
pas,
on
pas,
est
non, mais,
en 80 on boit du Ricard à l'apéro,
ouais. Non, mais
en
pour
soirée
les vendre,
on boit des whisky Coca comme encore aujourd'hui et la bière ouais, si, mais, à la pression quoi mais ouais. Pas spécialement.
Ben, pour les vendre il fallait pas faire les bières qu'on trouvait ici, c'est-à-dire qu'à Neuquén Kronenbourg
1664
tout ça. Il fallait pas les faire, c'est à dire que le gars qui venait je veux une Heineken, lui dit non, on n'a pas d'Heineken ici, il y a autre chose quoi, donc le gars il était obligé de goûter autre chose et c'est comme ça qu'on a commencé à faire connaître les bières belges au Montalbanais.
Ça a fonctionné tout de suite, ça n'a pas coincé un petit peu justement au début
Non parce que comme on avait une ambiance musicale il y avait une bonne ambiance automatiquement.
Était à fond tout le temps ici, tu pouvais pas t'entendre.
C'était fort, ouais. Donc il y avait une ambiance dont les gens y venaient.
Ah oui, donc les gens ils comprenaient pas de toute façon le nom des bières, donc ils s'en foutaient quoi. La musique était trop forte, c'est malin, ouais.
Puis on avait un grand tableau où il y avait toutes les marques qui étaient inscrites. Et il fallait et les gens ils goûtaient une bière les unes après les autres, voilà quoi. C'était le deal quoi. Les groupes de jeunes, ils arrivaient, il fallait qu'ils goûtent le tableau, quoi.
Voilà, donc là on est dans les années 80, on va remonter hein, doucement, mais on a le temps de toute manière. Moi, mon verre est presque vide de toute manière, il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. On vient de déguster de la Hocal blanche, mais elle n'est pas du tout blanche, monsieur Courmont.
Oh, mais le terme bière blanche, c'est une histoire belge.
Ouais.
Le terme blanche, ça signifie simplement que c'est une bière de blé. Alors dans le Nord, moi qui suis originaire de Lille, avec une grand-mère flamande évidemment, on appelle ça des bières de froment. Alors que l'histoire belge, c'est par exemple en Bavière, c'est la Weissbier et Weizenweiss, c'est blanc et blé. En Angleterre, vous avez la Witbier, la Witbier, ouais. Une bière de blé, c'est pas la White Beer.
D'accord, en fait, ça n'a rien à voir avec la couleur que doit avoir la bière, quoi.
Depuis le 19e siècle, en Belgique, les termes blanche et blé devaient se ressembler, mais les bières blanches sont des bières de blé, en fait.
Merci.
Et ça n'est pas la couleur.
Éclaircissement, monsieur Courmont. Par quoi on commence ? Moi, je ferais bien un petit bouquin. Non ? Hein ?
Oui. J'allais parler de la fête de la bière.
Allez,
on va rester dans la bière. Voilà, exactement ça. Cette orgie de bière et de fête qui a lieu dans plein d'endroits dans le monde, mais la plus connue, l'authentique, la meilleure ou la pire, on ne sait pas, se trouve à Munich. On l'appelle l'Oktoberfest, la fête d'octobre en Allemagne.
Oktoberfest, ouais.
Voilà, la fête d'octobre.
Et il y en a partout en Allemagne, hein, au même moment.
Et oui.
Il y en a à Mayence, il y en a partout.
Il y en a à Hanovre, à Stuttgart aussi. Et elle commence systématiquement le samedi de septembre à midi. Elle dure jusqu'au premier dimanche d'octobre. Ça nous fait quand même une moyenne de 16 à 18 jours de fête, suivant le calendrier de l'année. Cette fête populaire a lieu près du centre de Munich sur un terrain vague de 42 hectares et qui sert le reste de l'année, soit pour des foires, soit comme parking. Ce site s'appelle la Prairie de Thérèse et donc les Bavarois appellent cette fête de la bière la Prairie. Qu'est-ce qu'on y fait à cette fête de la bière ?
On boit !
Voilà. Qu'est-ce qu'on déguste ?
On y boit des quantités énormes de binouze servies dans des chopes de 1 litre qu'on appelle des masses. Là, c'est une consommation quand même...
La Spaten qui est brassée spécialement pour la fête de la bière à Munich, est une bière qui est très digestive, qui est très fraîche et qui ne rend pas malade.
Ah voilà, parce que pour boire des quantités...
Voilà, ouais. C'est une bière spéciale pour la fête de la bière à Munich.
Et qui a très peu de degrés d'alcool.
Très peu de degrés d'alcool. Personne n'est malade pratiquement. Hein. Elle est très fluide. Quoi, comme,
elle est très diurétique.
Ouais. Ah bah, ouais.
En tout cas, on en boit... Plus de 6 millions de litres pendant cette fête, donc chaque année. Il y a plus de 5 millions de visiteurs, pour la plupart allemands, mais il y a aussi des touristes qui ont envie de profiter de cette ambiance dingue, qui ont envie de voir des bavaroises, girondes, et tout ça, quoi, la fête. Danser, monter sur les tables, sur les bancs.
Le plus fabuleux aussi, c'est la musique. Parce que dans chaque chapiteau, c'est des chapiteaux de 10 000 personnes. Il y a un groupe de musique qui est au milieu du chapiteau, un groupe bavarois. Et il joue 3-4 morceaux bavarois. Et de suite derrière, il y a 3-4 morceaux de rock, mais ACDC, du hard rock même. Hein. Mais c'est fabuleux.
Mais à la mode bavaroise ou...
C'est les mêmes. Ouais, ouais.
C'est les mêmes.
Mais c'est les mêmes.
Avec les culottes de
musique populaire. C'est un mélange de musique bavarois et de rock, gros, musique, de beaux morceaux rock ou hard rock. Et tout le monde danse, il y a une espèce de fête.
10 000 personnes sous une tente. Donc c'est
10 000, ouais.
L'ambiance.
Il y a 10 chapiteaux de 10 000 personnes.
D'accord. Et donc la plus célèbre, elle est à Munich, mais sinon il y a Hanovre.
C'est de celle-là que tu parles, de celle de Munich, ouais. Gérard, ouais.
Voilà, c'est la fête principale. Et il y en a une autre donc à Stuttgart qui est la deuxième plus importante en Allemagne.
Il y en a une à Caussade, hein. Pierre Gimbal a créé l'Oktoberfest pour la première fois cette année. Non, mais j'y étais, c'était très drôle. Il avait fait une belle choucroute d'ailleurs, non, c'était sympa.
C'était bien.
Ah ben oui.
À Montauban, on l'a fait.
Vous l'aviez pas fait.
Marché-Gare,
ouais.
On l'a fait pendant 3 ans.
Ah ouais.
Elle fait 3 ans, mais bon, c'était pas évident. Hein.
C'est sacrée organisation.
Ouais, sacrée organisation. Puis, 2000 personnes. Ouais, et puis on avait 2000 personnes.
2000
par
personnes, c'est
par
bien soirée. Déjà.
Mais
il
y avait que des bénévoles et tout, donc c'est dur quand même.
C'était quand ça ? C'était en. On est toujours dans les années 80, là, non ?
Ouais, c'est les années.
90,
ouais.
Ah, on a progressé un petit peu. Ouais. On a progressé. On progresse dans cette émission, tu vois. Channel sais même pas si t'as réussi à aller au bout de ta chronique.
Ah oui, tout à fait, si, on a fait le tour. En plus, on a eu les explications du patron, c'est bon.
Alors, un peu de jazz, s'il vous plaît, maître. Genre, ah ben non, ben alors, c'est pas. Alors. Bon, alors, c'est parti.
C'est possible. Aujourd'hui, j'ai choisi Marc-Henri Miller. Bon, il faut dire que le Flamand était un lieu de jazz pendant le festival de jazz pendant une dizaine ou douzaine d'années. Quand il y avait l'animation en ville, il y avait un podium en face de le Flamand.
Ça continue pas, non ? Tu continues pas pendant le festival de jazz de mettre toujours du jazz ?
Si, je continue, mais un peu moins de jazz. Ouais. Le problème, si tu veux, c'est que on n'a pas les moyens de faire venir des groupes de jazz importants, quoi. Parce que du jazz à 2-3 personnes, bon, c'est, on peut le faire, mais dans la rue, pour arriver à créer une animation, c'est pas évident. Alors qu'à l'époque, grâce au comité, on avait des groupes de 10-12 personnes qui jouaient du jazz, du vrai jazz, quoi.
Il y avait des orchestres, bon, il y avait orchestre à midi, l'après-midi à partir de 17h jusqu'à 20h, et après tu rajoutais des orchestres. Et même à l'occasion, je me souviens une fois, il y a Claude Bouling, c'était un samedi à 2h de l'après-midi, il a pris le piano, il y restait pendant une heure, il a joué pour son plaisir, les gens s'arrêtaient dans la rue, regardaient ce gars en disant, tiens, on le connaît, mais ils savaient pas qu'il y avait un des meilleurs pianistes français qui jouait à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai choisi Marcus Miller. Marcus Miller est un bassiste. Bon, il a commencé par jouer un peu de piano.
Il ne viendra pas.
Ah non, mais laisse-le finir sa chronique, sinon on ne va pas y arriver.
Il n'a pas de notes. Il n'a pas de notes. Donc là, on va
Vas-y, Georges.
Attends, quand tu auras ta chronique, je vais te la sabrer.
Voilà. J'en ai pas.
Alors. Oui, Marcus Miller a commencé par jouer du piano de l'orgue parce que son père, comme tous les Nord-Américains, jouait du piano de l'orgue dans une chorale dans une église. Puis vers l'âge de 10-12 ans, il a joué d'un instrument particulier, la clarinette basse. C'est un instrument qui a un son très grave et ça l'a rapproché un petit peu de la basse. Donc il s'est mis à la guitare basse vers 13 ou 14 ans et il a continué sur cet instrument parce qu'il a développé dans la façon de jouer en slapant les cordes, c'est-à-dire les tirant et les faisant sonner sur le manche de la basse. C'est un gars qui a beaucoup de technique, qui est un très gros, qui a beaucoup de rythme aussi, qui est un grand rythmicien. Il a été surtout connu quand il a commencé à faire son premier disque avec Miles Davis, un disque qui a remis Miles Davis en route qui s'appelle Tiu Tiu. Et là, il vient de sortir un CD qui a été enregistré en public à Lyon en 2009 et sur lequel il reprend tous les morceaux de Miles Davis. Et nous écoutons le premier morceau qui s'appelle Splash.
C'est pas le bon morceau, visiblement.
C'est pas grave. Ah oui, c'est pas le bon, hein.
C'est pas Splash ?
Non, c'est pas le bon.
Non, mais tu peux le recaler ou tu peux pas le recaler ? Non ? Allez, ben allez.
Si, tu recales pendant ce temps, je vais parler un peu. Il faut dire que Marcus Miller, après, quand il a été connu avec. Avec Miles Davis. Ensuite, il a fait des enregistrements avec Jean-Michel Jarre. Il a participé.
Ah ouais, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux.
Je vais continuer quand même pour dire ce qu'il a fait. Il a fait quand même le disque Nougat York avec Claude Nougaro, c'est pas mal. Mais il a été aussi le producteur de France Gall, qui avait, lors de son dernier disque en 93. Donc il est assez éclectique. Il a joué même, il a enregistré avec Aretha Franklin.
Il aime peut-être les sucettes à la nid.
Peut-être aussi. Et il a joué aussi avec Snoopy Dogg. Donc il a.
Comment tu dis?
Oui, comme tu as. Donc il a un répertoire assez varié. Je crois que le morceau est calé maintenant. On peut l'envoyer.
Ah, c'était la banlieue. Hein. Ça c'est la même, hein, toujours. La même, hein, ouais.
Splash, une composition de Marcus Miller sur son dernier disque qui s'appelle Tutu, un hommage à Miles Davis.
Qui joue la trompette?
Un truc sur ce que tu disais tout à l'heure, Marcus Miller qui a joué avec Jean-Michel Jarre, tu sais, ça m'a fait penser à une phrase sortie de ce magazine là que j'aime beaucoup, qui est un gratuit, qui s'appelle Longueur d'onde, qui sort tous les deux mois et qui là vient de fêter ses 30 ans. Et donc c'est le magazine on va dire, du rock francophone, tu vois. Et dans ce magazine, ils reprennent 30 ans d'interviews et des petites perles comme ça des artistes qu'ils ont interviewés. Et il y en a une qui concerne justement Jean-Michel Jarre, puisque c'est les Satellites en 91 qui répondent à une interview donc de Longueur d'onde. Et donc on leur pose la question, si vous aviez un budget illimité pour un spectacle, qu'est-ce que cela donnerait? Donc on est en 91, rappelez-vous hein, ce que faisait Jean-Michel Jarre à cette époque-là. Et donc, les Satellites répondent, ce serait l'exécution de Jean-Michel Jarre par des lasers devant tout Paris et diffusée par Satellite dans le monde entier. Donc, je fais juste une parenthèse sur ce Longueur d'onde que vous pouvez trouver généralement dans toutes les salles de spectacle au Rio. Ici, au Flamand, j'en ai laissé quelques-uns dans la porte d'entrée, là où on met tous les tracts. C'est un gratuit, de toute manière. Il y en a au Rio, il y en a à la radio. Et c'est vraiment, vraiment super bien. Et le Serge Beyer, qui est le rédac chef du Canard, est interviewé d'une façon très originale par Mathias de Dionysos. Il y a un gros dossier, enfin, il y a plein de dossiers qui sont très très sympas. Voilà, c'était une aparté. Mais revenons au flamand pour une seule petite minute. Après, ça va être les infos et donc on enchaînera. Gérard, en une minute. Le flamand aujourd'hui, quand tu dois le présenter à quelqu'un ou si tu devais le tweeter, tiens, qu'est-ce que tu dirais du flamand aujourd'hui?
Le flamand aujourd'hui, c'est particulier aujourd'hui parce que vu ce qui se passe dans la société, c'est pas évident, hein, surtout sur Montauban en plus, avec l'évolution des zones, l'agrandissement. L'agrandissement de la ville, la population qui s'agrandit. Et bon, c'est vrai que le flamand se perd un petit peu dans tout ça, quoi. À une époque, le flamand, c'était l'institution, tout le monde connaissait. Bon, maintenant, je pense qu'encore, c'est encore connu. Ce qu'il y a de bien, c'est que les gens apprécient de plus en plus les bons produits. Et les produits de qualité et le fait d'être resté sur la Belgique, d'être resté dans des produits bien élaborés, bien structurés, permet encore d'avoir une clientèle nouvelle, d'avoir pas mal de passages et d'être quand même reconnu dans la cité, quoi.
Gérard, toi tu sais pas ce que c'est Twitter, hein? C'est Twitter, c'est
100 caractères.
100 caractères. La suite
pas de 10 000 mots.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste après ça. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors voilà, messieurs, dames, si vous prenez le train en marche, sachez que nous sommes pour une émission spéciale au Flamand, à Montauban, le Flamand, institution montalbanaise, hein, bar de bière belge depuis 32 ans à Montauban. Et si on a choisi d'y venir pour ce Qu'est-ce qu'on déguste, c'est bien sûr parce que d'abord Gérard nous y a invités, mais aussi parce qu'il y avait un événement. C'est que ce mois-ci, la bière du mois au flamand, c'est la Hocale.
Et la bière de la française.
Et c'est la Hocale, elle est fabriquée à la française par Jackie Courmont et Grégory Robert.
Du coup, je croyais qu'elle était fabriquée à Hambourg, local Hambourg.
Oh bravo!
C'est le premier de la soirée.
Ouais!
Donc, Gérard nous accueille. Ici au Flamand, il y a Jackie Courmont et Grégory Robert de la Hocale. Vous venez de l'entendre, il y a Georges et malheureusement sa discothèque.
Malheureusement,
jazz.
Il est là.
Et c'est Calembour. Il y a Pascal Olivier, bien évidemment.
Salut à tous.
Peut-être y aura-t-il une recette du poulet bouilli.
Éventuellement, à la bière. Bouilli à la bière.
Bouilli à la bière, pourquoi pas. Christophe, tout va bien ?
Eh bien oui, parfait.
La suite du programme,
eh ben, on va parler d'un livre sur la Factory, un label. À mon avis, il buvait beaucoup de bière aussi.
Gaël,
on va parler des éditions Ankama, mais un petit peu par rapport à des publications qui sont un petit peu moins connues que leur univers habituel.
Ben c'est très bien parce que moi je n'ai pas du tout ce que c'est comme ça.
L'édition Ankama, c'est le jeu par exemple d'Ofus d'habitude. Et là j'ai choisi trois publications, un comics, un manga et puis une publication un petit peu plus jeunesse.
Dakodak, donc ça c'est pour un petit peu plus tard. Pour l'heure, eh bien comme chaque demi-heure, on démarre en musique. Non ?
Oui.
Qui c'est qui a porté un disque ?
On écoute Justin Martin, c'est une grosse nouveauté bien dance floor et très très groovy. Le morceau s'appelle Hood Rich.
Profitez-en de ces 2 minutes 30 pour essayer de vous rappeler dans les années 85-90. Allez, on va monter, on a dit qu'on montait un peu, hein, 90. Qu'est-ce qui existait à Montauban, à côté du Flamand, quand on sortait à Montauban, quand on allait boire un verre, quand on allait en discothèque éventuellement. Qu'est-ce qu'on faisait à cette époque-là ? Allez, remember.
C'est une grosse nouveauté, ça sort le mois prochain. C'était signé Justin Martin. Bon son.
Alors, dans ce qu'est-ce qu'on déguste, on déguste. Et on déguste actuellement fromage de l'abbaye de Maretsu, c'est ça Gérard ?
Maretsu, oui.
Ouais. C'est de la bière Maretsu normalement.
Maretsu, c'est une abbaye ouais, qui fait. Qui, mais tu sais, dans les abbayes, il faut la bière et le fromage, hein, ça marche ensemble. Hein. C'est deux produits qui savent travailler, ils ont travaillé ça depuis très longtemps. Et on ne boit pas une Maretsu sans manger un carré de fromage de l'abbaye, quoi, en principe.
Ah bon ?
Ah oui, le fromage, c'est pour la mise en bouche, et après la bière, c'est pour la mise en bière. Hein.
Oh, bravo, Jacques Courmont.
Alors le fabricant de bière vous dira que ce sont les mêmes levures. Ce sont les mêmes levures qui font les fromages et la bière.
Tout à fait.
Ouais.
Ouais, oui.
Oh, bonjour, mais j'ai cru que Pascal allait nous sortir sa science.
Non.
Ouais.
Bon. Il n'y a rien à dire de plus.
Donc là, ce qu'on déguste, c'est un fromage de Maretsu. Et donc, ce que j'ai dans ce petit verre que tu prends en photo, je te prie, hop, qu'on retrouvera sur qu'est-ce-qu'on-déguste.com. C'est de la Maretsu aussi ?
La Maretsu brune, ouais, 8 degrés.
Ouais.
Oui, déjà, c'est un peu ça.
Ça sent un peu quand même.
On le sent un peu, ouais. Au bout de 3 gorgées, on commence à
savoir. Mais nous, on ne le sentira pas parce qu'on ne fait ça qu'avec modération, hein, on est bien d'accord.
Le fromage là, c'est juste un fromage, pour goûter. C'est un fromage de vache cuit, c'est-à-dire c'est pas au lait cru, hein, c'est cuit, et la croûte est lavée à la bière.
Ah oui.
Ah oui. C'est comme ça, les fromages, pour faire une croûte, et c'est la croûte qui donne le goût au fromage, elle est lavée à la bière tous les jours, alors pendant peut-être un mois, deux mois, trois mois, j'en sais rien.
Ouais, c'est vrai que c'est temps, ouais. C'est vrai que la croûte, on peut la manger. C'est
ouais. Il faut la manger.
Question stupide. Aujourd'hui, mais quand on dit une bière d'abbaye, est-ce que c'est devenu une grosse firme industrielle ou est-ce que ça reste une abbaye avec des moines dedans
C'est une abbaye avec des moines, oui.
Il y a tout, attention. Mais il y a des moines qui ont vendu leur licence à des brasseurs et il y a des moines qui font la bière.
Il y a encore des moines qui font la bière. Oui.
Alors il faut bien spécifier la grosse différence entre les bières trappistes et les bières d'abbaye.
Voilà.
La bière trappiste, comme la Maritsu, ce sont des bières où il y a les moines qui font leur fromage, qui font leur bière.
Une bière d'abbaye. Font leur blé.
Une bière d'abbaye, c'est simplement un nom. Moi, j'ai une abbaye à 500 mètres de chez moi. L'abbaye de Francourt.
Grandmont-Francourt.
En plus, il y a mon nom dedans. Oh, ouais. Je pourrais faire une bière d'abbaye tout simplement en déposant le nom.
Ah oui, parce que j'ai. Ça fait un IGP, quoi. Géographiquement, voilà. Ça marche.
Alors qu'il reste 7 bières trappistes en Europe, 6 en Belgique et une en Hollande.
Hollande, c'est la Trappe.
Hollande, voilà. Et donc là, vous avez une bière trappiste. C'est une vraie,
par des moines.
Une vraie bière de moine.
Ouais, donc, c'est fait par. Il y a les moines qui. Alors bon, c'est pas eux qui. Ils ont des ouvriers qui travaillent eux pour fabriquer. C'est pas eux.
Comme à l'ancienne. Ils sont pas avec les robes. Imagine en soutane, les mecs.
Ouais, la soutane en train de bosser.
Comme dans Chaussée aux moines, tu sais.
Ça sent la robe de bure. Ça sent la robe de bure quand même. Hein.
C'est eux qui gèrent le travail, quoi.
C'est leur recette depuis 1300.
Et puis c'est eux qui prennent les décisions, quoi. S'ils veulent agrandir ou s'ils veulent faire des travaux ou n'importe, c'est les moines qui décident, quoi. C'est pas.
Gestionnaire de.
Bien sûr.
Allô, attention. Alors, Aurélien, il est placé devant le pissoir, ici. C'est pour ça qu'il n'a pas vu mon geste.
Ne pissez pas sur la console.
Non, le jingle. Je vous ai posé une question tout à l'heure. À l'époque de la création du flamand, à Montauban, donc on est dans les années 80, on va dire entre 85 et 90, rappelez-vous, qu'est-ce que vous faisiez à Montauban. Alors pardon pour tous les autres, mais on va être un tout petit peu Montalbanais là pour le coup là. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans les sorties, Pascal, pour toi?
Le temps des cerises, ouais. Ce qu'on appelait le temps des queues. Ouais. Grand bar, grand moment, musique.
Décris-le un peu plus.
Au cave, enfin c'était brique, c'était presque le.
C'est là où il y a le café Durand aujourd'hui.
Voilà. Hein. Ouais. Presque un petit côté alternatif, un petit côté musique qu'on n'écoutait pas forcément partout ailleurs, des bières, des choses comme ça, et puis des gens de rencontres.
Enfin, c'était ouvert un peu avant le flamand, ça.
Ouais, c'était ouvert un petit peu avant le flamand, oui. Juste avant, oui. Je sais plus comment il s'appelait le patron. Je l'ai bien connu. Mais...
Christophe, toi, à l'époque.
Je suis plus jeune que vous, j'allais en boîte principalement, j'allais au caveau à l'époque. C'était une excellente boîte.
À l'époque, Electro ou Magdalena, ouais. Qui
non,
aujourd'hui...
Avant.
Jean-Pierre, non ?
Robert Ambal, mon beau-père, ah, ouais. Qui tenait le caveau.
Oh, d'accord.
Et il y avait Philippe de chez Lulu qui tenait les platines. C'est là où j'ai découvert un peu d'ailleurs la musique électronique, d'accord. Et tout ça, voilà.
Georges, dans les années 80 ?
Ah, moi, j'étais marié, je ne sortais pas.
Madame Georges fait des gros yeux tout ronds.
Madame Georges est derrière. Elle est là en catimini.
Elle n'a pas l'air d'accord.
Gaël, tu n'étais pas du coin, toi.
Ben, moi, j'étais pas encore à Montauban. Ouais. Je faisais déjà des conneries, par contre.
Vous étiez ici, vous ou pas ?
Oui, j'étais dans les années 80, j'étais là. Mais j'étais jeune marié et... Bon, ma foi, je sortais pas trop.
D'accord.
Quelle bande de menteurs.
Cloîtré. Ouais.
Ben moi, je me rappelle de cette époque-là. On faisait, il y avait d'autres institutions. Il y avait le flamand, mais il y avait le Dali à l'époque. Aujourd'hui, à la place du Dali. Il y a
le QG.
Mais le Dali à l'époque, c'était voilà.
Non, mais ce qu'il y avait de fabuleux à l'époque, c'est que le Dali, il ouvrait jusqu'à 5h du matin.
Mmh. Et c'était un café concert. Hein,
donc,
j'y ai vu Zebda au tout début, par exemple.
Ouais. Il y avait le rituel, le circuit flamand d'Ali.
Ouais.
Et après
et flamand, Dali, Gainsbar.
Et après, Gainsbar.
Il y avait eu un autre bar, voilà, enfin, une autre boîte de nuit à Falguière à l'époque, ouais, qui était le Gainsbar. Et c'était une époque, pourquoi on fait vieux combattant en parlant de ça? Mais c'était parce que c'était une époque très rock, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que ici, toi, Gérard, au flamand, tu passais du rock.
Ah oui.
Le Gainsbar, c'était rock. Le Dali, c'était rock. Ça a été voilà, une époque, les années 90, qui était vraiment très, très rock.
Très rock pour,
à Montauban, en tout cas.
Il y avait le Drakkar aussi. T'as pas connu le Drakkar?
Ouais, mais le Drakkar, c'était... alors, le Drakkar, ça a pas duré longtemps. Mais je l'ai un petit peu connu, oui. Effectivement. On va arriver à la suite. Car, mon gars, c'était quelque chose.
C'était viking.
C'était un truc de viking. Allez, une chronique, s'il vous plaît, mon cher Gaël. Alors, mais bien, avec le micro. Bien,
alors, on va parler des éditions Ankama, donc, qui ont été créées en 2001. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ici connaît un petit peu les éditions Ankama.
Christophe, tiens-lui le micro.
Là, je m'entends, donc...
Oui, mais moi pas.
Ah, d'accord. Donc, créé en 2001 à l'initiative de trois entrepreneurs. Alors, c'est de là que vient le nom Ankama. Ils ont un petit peu triché. C'est la contraction de leurs trois prénoms, Anthony, Camille et Manu. Alors, on les connaît surtout pour leur production Dofus et le jeu vidéo qui en est issu, et ensuite les bandes dessinées. Mais moi, je me suis attaché à trois productions. Donc, on va commencer par la première, qui est un manga, donc qui s'appelle Soil, et qui a été la série qui a lancé le label Kuri des éditions Ankama en janvier 2011, alors que la série se terminait déjà au Japon. Alors la ville de Soil, d'ordinaire plutôt calme, se réveille ce matin-là très agitée. Une famille sans problème a soudainement disparu. Cette petite banlieue résidentielle est sous le choc. Deux détectives, Yokoi et Onoda, sont alors dépêchés sur les lieux, chargés de trouver le fin mot de l'histoire. Mais cette enquête, qui paraît banale au premier abord, va rapidement tourner à l'énigme mortelle pour ces deux policiers. Car dans cette ville trompe l'œil, rien n'est tel qu'il paraît. Et quand la façade s'effrite, le décor ambiant n'est pas beau à voir. Alors, on retrouve un casse-tête mystérieux qui est magistralement orchestré par Atsui Kanedo, l'auteur du fameux Bambi Under Pink Gun. Alors, le manga, là, utilise et se réapproprie assez habilement les codes du thriller et du film d'horreur. Donc, il y a un côté à la fois très oriental et très occidental dans la narration. Et le premier volume fait penser un petit peu au vieux film L'invasion des profanateurs de sépulture. Et il y a un petit côté effectivement très américain dans le graphisme. Alors, il y a un petit truc qui est très amusant, une anecdote liée de l'auteur, qui dit que cette histoire, pour lui, se déroule dans une ville nouvelle. Et il dit qu'une fois, il a demandé à un ami français s'il connaissait ce genre de ville et leur organisation. Alors, je sais pas quel genre d'ami il a, parce qu'apparemment, son ami, visiblement, ne connaissait pas ce concept. Il lui dit, car cela n'existe pas en France. Alors, donc, il tente de nous expliquer ça, mais en fait, c'est une paisible banlieue, comme on en a plein en France. Voilà, donc ça s'appelle Soil. Il y a 8 volumes pour l'instant. C'est vraiment très, très bien pour tous les amateurs de mystères, de films d'horreur et de thrillers. Donc, c'est le premier manga paru aux éditions Ankama.
Alors,
on n'est pas habitué quoi.
J'aimerais savoir si quelqu'un peut m'expliquer ici comment ça se fabrique la bière finalement, puisqu'on est sur une émission de bière. Alors, Jackie Courmont, créateur, brasseur de la bière au calme.
On va y aller. La bière, c'est du pain liquide. Du pain liquide, c'est-à-dire qu'il faut de l'eau, il faut la céréale. Alors, la céréale dans la bière.
Des cornflakes.
Non, c'est l'orge. Les cornflakes, c'est du maïs. Mais dans la bière, c'est l'orge. Mais l'orge sous une forme maltée, c'est-à-dire que l'orge a été germée, tout simplement. Quand on vous dit malt, c'est une orge germée. Donc eau, malt. Derrière, il faut une épice. Et c'est le houblon. Le houblon qui est une fleur qui se récolte chaque année au mois de septembre. C'est une liane. Et en fait, le houblon s'est imposé au 15e siècle... du fait que c'était l'épice dans les bières qui permettait une meilleure conservation. Voilà pourquoi.
Très amer, le houblon.
Le houblon est très amer, mais il a surtout l'avantage de faire que le breuvage bière se conserve.
Il est antiseptique.
Voilà, absolument. Et puis derrière, il y a la levure, et ça, c'est le trésor de la bière. C'est-à-dire que tous nos moines là, qui depuis le Moyen-Âge nous font de la bière, ont sélectionné des levures qui étaient au départ étaient tout à fait naturelles, mais qui maintenant sont complètement sélectionnées. Et de nos jours, on a une chance extraordinaire, on a accès à toutes les levures qui ont été sélectionnées de par le monde. Et donc, moi, j'utilise des levures britanniques. Et les caractéristiques des levures, c'est ce qui fait le caractère de la bière.
Alors, c'est-à-dire que la levure, en fait, elle mange le sucre et elle transforme le sucre en alcool d'un côté et en gaz carbonique de l'autre.
Mais je n'ai plus rien à dire, il y a un spécialiste.
Là. Voilà. Non, mais c'est le principe de toute fermentation.
Absolument. C'est la fermentation alcoolique qui a le même aspect dans le vin, sauf que nous faisons un vin effervescence, donc une bière et reste...
Alors, pourquoi des levures britanniques?
Alors, j'ai choisi ces levures parce qu'elles avaient beaucoup d'arômes. Il faut savoir qu'elles ont été sélectionnées dans des environnements beaucoup plus froids. Donc, ce sont des levures qui sont beaucoup plus énergétiques et qui développent beaucoup plus d'arômes.
C'est un truc que je ne comprends pas. C'est des petits champignons, les levures, c'est ça?
Absolument.
C'est comme le truc vert que du Roquefort, quoi.
La seule chose, c'est que cette sélection qui, depuis le Moyen-Âge, est faite dans la bière, a fait une qualité de la bière. Vous faites un très très bon pain avec une levure de bière. Mais comme on empêche les boulangers de garder leur levain des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, on ferait une très très mauvaise bière avec un levain de pain, quoi.
Donc on cultive son levain pour la bière.
Voilà.
Enfin, on peut le cultiver. Moi, vous utilisez
chaque brasserie a son levain, quoi.
Oui, voilà. Fait.
Alors donc
et son goût, donc son goût,
donc son goût,
donc ça, son terroir.
Voilà.
Donc à un moment, est-ce que la bière, comme le vin, est-ce qu'on fait des assemblages comme, je sais pas, dans le vin, on fait des assemblages de cépages, mais est-ce qu'on fait des assemblages de céréales? Est-ce qu'il y a un terroir qui compte? Est-ce que on fait on l'élève en barrique ou est-ce qu'on le fait vieillir? Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout est possible. Mais faire de la bière, c'est facile. Faire une bonne bière, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais faire une très bonne bière de manière constante, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc une fois que vous avez votre recette, les saisons, la région ne jouent plus sur votre bière. Par contre, vous ne pouvez pas changer d'environnement, vous ne pouvez pas changer vos cuves, vous ne pouvez pas changer la fabrique. Ça vous changera la bière. Donc le choix.
Dès que vous avez même le métal de la cuve, tout ça là, ça.
Là, je vous parle de bières artisanales, de bières qui sont conçues, je dirais, à la main. Parce que moi, j'admire les chefs de brasserie, des brasseries industrielles, qui arrivent à faire quelque chose de je dirais, de correct, avec des moyens économiques complètement démentiels. Quoi.
L'inox.
Non, l'inox est indispensable. L'inox a remplacé le cuivre. Le cuivre avait remplacé le bois. L'inox est devenu indispensable partout en termes alimentaires et même dans la bière.
Même dans la bière. Pas partout.
Mais... Bon, je reviendrai vers vous sur. À moins qu'il y ait un débat qui s'ouvre là.
Entre vous deux. Non mais il y a des brasseries encore qui travaillent avec le cuivre.
Absolument.
La cuvée de Troll, la brasserie Bûche travaille encore avec des cuivres en cuivre.
Ça donne un goût.
Mais je sais pas, mais ils travaillent encore. C'est une brasserie qui a trois générations, qui travaille encore avec des grosses cuves en cuivre. Et c'est vrai parce que je les ai vus, quoi.
De toute façon, ces brasseries qui travaillent avec leur outil depuis plusieurs dizaines, plusieurs peut-être centaines d'années, n'ont pas intérêt à changer leur cuve parce que la bière changera.
Ah oui?
Oui, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça que je disais, il faut pas changer, faut rien changer, quoi.
Il n'y a pas une réglementation par rapport à ça?
Alors le cuivre est toléré pour la bière. Absolument, le cuivre est encore toléré pour la bière, mais dans ce qui est réglementaire alimentaire, c'est vrai que l'inox est indispensable. Mais c'est complètement toléré parce que, tout simplement, le cuivre intervient au niveau de la chaudière, au niveau des cuves filtres, c'est-à-dire complètement en amont de la fermentation. Il est évident que les fermentations se font dans de l'inox. La fermentation, c'est la phase finale de la bière. Par contre, toute la préparation, c'est-à-dire la cuisson, l'empâtage, toutes ces choses-là, peuvent être encore faites en cuivre. Thank you, need a real man.
Merci Jackie Courmont pour ces petites précisions sur la fabrication de la bière. On va venir vers vous après sur l'histoire et ce qui vous a poussé à monter une brasserie il y a 14 ans à la française et de créer la Hocale, bière qu'on peut boire pendant tout un mois à la pression ici au Flamand. Et après en bouteille, évidemment. Mais je revenais là-dessus parce que c'est un peu le principe, hein, Gérard, au Flamand. Bon, déjà, je vois d'ici, là, il y a huit bières à la pression. T'as combien de bières derrière
Une centaine de bières bouteilles, une centaine.
Je sais pas pourquoi j'ai dit 300, moi. Pourquoi j'avais l'impression que t'avais 300 bières à la pression? C'est un peu le
300
le
bières fantasme. À la pression?
Non, pas à la pression, en bouteille, pardon.
Ah bon.
Non, en bouteille.
Mais on peut. Non, mais on peut avoir 300 bières. Je veux dire, en Belgique, t'as une bière pour chaque journée de l'année. Oui. Facile, quoi.
Et comment tu as sélectionné les 100 bières qui sont derrière là? Ce sont celles qui ont marché le plus finalement depuis 30 ans
Ouais, c'est celles qui ont marché le plus depuis 30 ans. Puis il y a pas mal de bières bouteilles nouvelles aussi parce que chaque brasserie quand même continue à créer des bières. Et l'Opus, la Guillotine, des trucs comme ça, là, c'est des bières nouvelles qui ont 2, 3 ans ou 4 ans quoi. Et qui ont été faits avec les qualités voulues, quoi. Donc c'est quand même des bières qu'on a été obligé de mettre à la vente et à la dégustation. Mais c'est vrai qu'on prend les bières déjà qu'on aime, nous.
Obligé de les mettre à la vente, c'est bon.
Ah oui.
Bon, voilà. On est obligé de mettre les bières à la vente.
Ben oui.
Non, mais j'ai une équipe qui s'endort.
On peut pas les boire.
Quand Gérard dit d'une connerie, dites-le quand même.
Non, mais on a des clients. Il y a des clients qui s'en vont et qui nous disent au revoir. Donc, si tu veux, là, on a été obligé d'être poli. On est poli à qu'est-ce qu'on déguste. On est digne.
Moi, je sais pas, mon verre est vide de toute manière. Alors, je refuse de continuer cette émission dans ces conditions-là.
Galopin de Pierre
Léger. Ah oui, la blonde, la marée de sous blonde, ça serait bien. On a 2 petites minutes, Gérard, pour parler peut-être des difficultés que tu évoquais tout à l'heure. D'être aujourd'hui en ville, au cœur de ville de Montauban, comme dans tous les cœurs de ville aujourd'hui. Mais non, mais c'est moi je regrette et je fais partie de ces gens qui regrettent qu'aujourd'hui l'activité, par exemple aujourd'hui en période de vacances scolaires, il y a certains soirs à Montauban les rues sont désertes et si tu vas en zone nord du côté du cinéma et de tous les restos et pubs qui sont autour, et ben il y a du monde et la vie finalement se déplace là-bas et la
et
vie en ville
est en train de crever un petit feu.
Je dis pas ça, je dis mais
si, je le dis moi.
Non, je dis pas qu'il est en train de crever parce qu'il y a des fois il crève puis des fois il crève pas, c'est par période mais bon, alors là, Gérard, toi ton
mort,
avis
il
à
bouge
toi.
Encore.
Alors non, mais de toute façon je pense moi que le centre-ville ne peut pas mourir. On arrivera toujours à surmonter tout ce qui s'échappe au fil du temps, mais c'est vrai que des fois ça prend 10 ans ou 20 ans ou 30 ans quoi, parce que si une bêtise est faite à un certain moment dans un centre-ville des fois il faut 10, 20 ou 30 ans pour amener ça quoi. C'est, ils se rendent pas compte les gens qui nous gouvernent, mais c'est super grave quoi. Le cinéma au centre-ville, il y avait de quoi mettre un cinéma en zone, mais il y avait de quoi aussi garder 2-3 salles au centre-ville pour les gens, pour l'animation, pour garder. Je pense que ça aurait été rentable hein, si c'était bien fait quoi. Voilà, donc il faut faire attention pour les gens qui nous gouvernent. Il faut qu'ils fassent attention quoi. Chaque fois qu'ils prennent une décision négative sur un centre-ville, souvent il faut des années pour rattraper ça quoi.
On peut pas et on ne doit pas laisser crever un centre-ville.
Mais non, c'est inadmissible quoi. C'est vrai que il y a trop de gens. Un centre-ville, c'est une galerie marchande, quoi. Quand on parle de galerie marchande à Leclerc ou n'importe où, sans faire de pub, le centre-ville, c'est une super galerie marchande. Et il faut le garder. Il faut garder l'animation avec. Il faut que la mairie nous Donc pouponne, quoi. Il faut pouponner.
Et toi, tu vas résister.
Eh ouais, comment ?
Depuis 32 ans, tu résistes et tu vas résister
mais
encore.
Je résiste, bien sûr. Mais c'est comme les groupes musicaux dans la rue. C'est comme.
C'est difficile de faire des groupes musicaux dans la rue en centre-ville. Tu dois être bien placé pour le savoir, pour avoir, j'imagine, de suite des coups de téléphone pour dire mais il est 22h, faites taire la musique.
Mais de temps en temps, pas tout le temps, hein, pas tous les soirs, mais. C'est vrai que quand tu as un groupe musical qui joue jusqu'à 23h ou minuit ou plus tard, hein, c'est bon, ça va quoi. Je veux dire, Presse Paris, enfin ou la Place des Fontaines, on fait bien des soirées qui durent plus longtemps et puis ça se fait quoi. Et puis voilà quoi, c'est comme ça. Et puis de toute façon, à partir du moment où on décide d'habiter dans le centre-ville, automatiquement il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. C'est comme à la campagne des grenouilles quoi, c'est pareil quoi.
Allez, la campagne des grenouilles.
On se retrouve sur ce trinquage-ci dans quelques minutes depuis le Flamand à Montauban pour la suite de Qu'est-ce qu'on déguste ? Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Alors, si vous êtes là depuis un petit moment, vous le savez maintenant, c'est une émission spéciale. Nous sommes au Flamand ce soir. Gérard Soligon est notre hôte. Nous avons autour de la table Jackie Courmont et Grégory Robert de la brasserie Ocal à la française. Et c'est cette bière que nous allons déguster et de laquelle nous allons parler en même temps que nous mangerons cet énorme jarret aux lentilles que vient de nous servir Myriam, Mimi qui viendra sans doute nous en parler un petit peu tout à l'heure. Elle nous donnera la recette. Nous allons optimiser le temps de ces 25 dernières minutes. C'est pour ça que le générique a un petit peu changé. Et c'est une proposition musicale de Pascal Olivier. Et c'est...
Chaka Ponk.
Voilà, toi tu nous donneras la recette.
Du mat fin à la bière.
Christophe.
On parlera du label Factory Records.
Gaël.
On parlera d'Angus de Régis Don Simoni aux éditions Ankama.
Sur quel morceau de jazz nous parlerons?
Encore un peu. Disque sorti chez Dreyfus.
Marcus Miller chez Dreyfus. Allez, ça marche. On écoute quelques mesures de Chaka Ponk. Comme ça, j'ai le temps d'ouvrir un peu cette bière. Voilà, je vous demanderai d'ouvrir ça au micro. On peut le... Tu vois, si je la fais couler de haut et ça... C'est bien, ça déborde pas. Où est ton verre, toi? Des bières parce que nous allons trinquer, chers amis.
Ça fait chaque aplomb.
De la bière rouge de chez Ocal sur Chaka Ponk. Un vieux morceau de Chaka Ponk, ça. Let's
Bang. Bang. Ouais. Hein, allez voir le site de Chaka Ponk, c'est très très bien fait.
Ils viennent de faire un nouvel album et franchement, il est assez terrible.
C'est grand.
Ouais, c'est bien. Jackie Courmont, Grégory Robert, nous dégustons de la Ocal, bière rouge. Alors, On l'a déjà fait dans une précédente émission, mais tout le monde n'était peut-être pas là. Donc, présentation générale, carte d'identité de votre brasserie que vous avez créée, je crois, il y a déjà 14 ans pour vous.
Oui, en 98. Donc, je suis originaire du Nord, ce qui explique la bière dans le Sud-Ouest. La bière Occal, le terme Occal a été...
Occal pour Oc Occitan.
Voilà, c'est et ça. Ale ou Al en flamand, Ale en anglais, c'est la bière. La bière de fermentation haute.
Ale, comme ça, A-L, ça.
A-L-E.
A-L-E.
C'est la bière, le terme anglais pour les bières de fermentation haute.
D'accord, donc on dit, voilà, c'est la bière occitane, quoi. Hein,
j'avais pensé au kale et ma foi, c'est la bière locale.
Ok, ben ouais, mais ça marche super bien dans tous les sens. Voilà. Je trouve que c'est un super nom, marketingment parlant.
Hein, oui, j'aurais préféré que la brasserie porte mon nom. Malheureusement pour moi, Chimé, une bière de très grosse renommée, avait déposé déjà le nom de son abbaye, qui est Scourmont. Scourmont. Je m'appelle Scourmont. Je ne pouvais pas déposer mon nom.
D'accord. Mais enfin, avec Occal, vous avez un joli nom. Est-ce que...
C'est un mal pour un bien, je crois.
Oui, tout à fait.
Oui,
est-ce que ça a été difficile?
Il pourra être mieux transmis.
Vous avez fait un gros brainstorming avec des conseillers techniques en marketing et publicité pour en arriver là ou...
Eh bien, toute la différence entre la TPE et la multinationale, c'est que vous ne déléguez pas la responsabilité de la création du nom. C'est-à-dire que le brainstorming s'est fait dans mon crâne. Je lisais énormément de bouquins sur la bière en français, en anglais. Donc le mot « ale » était présent dans ma tête. « Oc », ça paraissait évident. Nous sommes dans le pays d'Oc. Et ma foi, ça m'est sorti une nuit.
Et alors, pourquoi la bière? Pourquoi la bière?
La bière parce que je suis lillois, parce que j'avais une grand-mère flamande. Et que la bière a toujours été chez moi, dans la famille, sur la table. En particulier cette bouteille que j'utilise depuis le départ, avec un bouchon mécanique qui fait un très beau son à l'ouverture. Et ma foi, c'était une évidence. Je voulais créer une entreprise de transformation de matières premières agricoles. La bière était pour moi une évidence.
D'accord. Vous-même, vous n'êtes pas agriculteur du tout au départ?
J'ai été pendant 12 ans exploitant agricole ici dans la région.
D'accord. Et vous faisiez de l'orge ou
Je faisais des céréales. Par la suite, j'ai changé, j'ai évolué. J'ai été jusqu'à diriger un laboratoire de recherche en agronomie. Enfin, j'ai fait différentes sortes de choses.
Vous avez fait des OGM?
Non, à l'époque, ça n'existait pas encore.
D'accord.
Il y avait des pesticides quand même déjà. Par contre, mon évolution a toujours été dans ce milieu agroalimentaire.
D'accord. Et donc, vous décidez, il y a 14 ans, de créer une brasserie. Quand vous faites cette brasserie, c'est... vous achetez la matière première ou vous avez la matière? Parce que vous avez le savoir-faire pour avoir la matière première.
Je suis fabricant de bière, c'est-à-dire que je transforme des matières premières que j'achète en bière.
Et vous n'aviez pas envie à un moment de faire le tout?
Non, parce que mon expérience m'avait démontré que pour avoir un produit fini constant, ce qui est primordial pour une bonne commercialisation et pour obtenir une notoriété auprès du public, il me fallait une constance dans la qualité de la bière. Et pour ça, il faut une constance dans les matières premières. Ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, les vins, ils ont des... Selon les années, il y a différentes qualités. Alors que pour obtenir toujours la même bière, il me fallait des maltes toujours les mêmes et des houblons toujours aussi équivalents. Et je n'aurais pas pu les produire de ma propre...
Donc vous allez les chercher où?
Alors, j'ai essayé de rester franco-français. C'est-à-dire que les houblons sont alsaciens, même si ce sont des variétés tchèques. Et les maltes sont français. Il faut dire que la malterie française est encore un des rares fleurons de la France. La France est encore le premier pays exportateur mondial de malt.
Alors.
Et les levures anglaises.
Eh oui, là c'est un choix personnel.
Donc, il y a 14 ans, quand vous créez la bière Occal, vous avez dans votre gamme une seule bière?
Mais j'espérais faire une brasserie avec une seule bière. Pour moi, c'était l'évidence qu'une brasserie, c'était un seul type de bière. Et puis, ça n'a pas duré. Je suis retourné avec mes bières, ma bière blanche, dans le Nord. Vous prononcez le mot blanche chez les ch'tis. Ils vous regardent avec des grands yeux. Quand j'étais à l'école, de ma classe, je voyais le Pélican. Le Pélican de Belfort.
Ah oui, Belfort.
Voilà. Et à Lille, les bières, ce sont des bières brunes. Donc, j'ai créé une bière noire. Dans la foulée, j'ai créé une bière noire. Et j'étais très content parce que la brasserie, c'était la brasserie blanche et noire. J'ai même fait une affiche. C'était un échiquier blanc et noir. J'étais très content. Et puis, au bout de 5, 6, 7 ans, on m'a demandé une blonde. Alors j'ai créé la blonde.
On vous a demandé.
Oui, on m'a demandé.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu présomptueux?
Non, j'ai toujours répondu à une demande.
C'est vrai?
Absolument.
Vous avez dit il y a un marché ou vous avez dit
non,
je réponds?
Non, la noire c'était pour répondre à la demande des gens du Nord. Et la blonde c'était parce qu'on me l'a demandé.
Non, mais...
Et il était anormal qu'une brasserie n'ait pas une bière blonde. Et je m'en suis aperçu tout de suite parce que du jour au lendemain, la production a doublé parce que la blonde, c'est quand même la référence des bières.
Jackie Courmont, où est-ce que vous vendez votre bière? Parce que vous me parlez des mecs du Nord. C'est là-haut que vous vendez votre bière au départ?
Alors au départ, oui. Au départ, j'avais environ 20% de vente dans le Grand Sud-Ouest. Et je faisais beaucoup d'expéditions. Je faisais aussi de l'exportation dans les pays scandinaves, dans les pays britanniques. Et tout ça a disparu parce que dans ces pays britanniques et scandinaves, il y a eu une arrivée des brasseries artisanales, donc une concurrence locale, et le mot local arrive. Je me retrouve, moi, avec mon choix de ce Ocal, qui est le nom de la brasserie, qui tombe pile poil maintenant, puisque la demande du consommateur, c'est le produit local. Et donc, maintenant...
Bougez pas, restez, c'était bien ça. La demande du consommateur, c'était...
Le produit local.
Attendez, faut que ça tourne. C'est bon, hein. Moi, le jarret avec les lentilles. Myriam, il va falloir que tu viennes nous expliquer comment tu le fais tout à l'heure. Mais pour le moment, Christophe...
Allez, on va parler d'un label qui s'appelle Factory Records, qui vient de Manchester. Et là-bas aussi, ils boivent beaucoup, beaucoup de bière, les Anglais, bien entendu, dans les pubs. Voilà. À l'heure où l'industrie musicale est moribonde, ça fait du bien de se replonger dans l'histoire d'un des plus grands labels indépendants de l'histoire. J'ai nommé Factory Records, qui a été fondé donc à Manchester en 1978 par Tony Wilson. Et c'est le berceau de Joy Division, New Order, certaines radios, Happy Mondays. Tout comme le label 4AD, Factory Records disposait d'une équipe créative qui assura au label et ses artistes un son et une image à part, notamment grâce au travail du producteur Martin Annette et au graphiste Peter Saville. Ce livre de James Nice retrace toute l'histoire du label et de son boss légendaire, donc Wilson, qui était présentateur sur une chaîne de télé mancunienne au départ. Et ce bouquin fourmille d'anecdotes croustillantes et de détails grâce à un incroyable travail de recherche. Pour en savoir plus, Rémi va nous lire l'intro du bouquin au tout début. Et ça illustre vraiment ce très très bon livre.
L'histoire de Factory Records a fait l'objet de tant de mythes qu'il était nécessaire qu'un livre rétablisse la vérité. Sans raison personnelle particulière, tel un médecin légiste, James Nice retrace ici l'ascension et le déclin d'une entreprise extraordinaire. Les détails s'additionnent pour former un fascinant récit chargé d'illusions, de démesures et de trahisons. Fin 1978 et début 1979, personne n'aurait pu se douter que Factory Records, alors une petite société artisanale, ferait un jour l'objet de 3 films et d'un culte fervent dans le monde entier. Pas même Tony Wilson, dont ses rêves les plus fous. Mais les principaux participants avaient les yeux et les oreilles. Et surtout, ils étaient le bon groupe. C'était d'ailleurs de là que tout part, The Joy Division.
Voilà, on retrouve Joy Division, New Order, Happy Mondays et les autres dans ce livre qui s'appelle Grandeur et décadence de Factory Records. C'est signé James Nice et c'est sorti chez Naïve.
Myriam, viens. Un mot, non, on dit rien là sur cet énorme jarret et ses lentilles. Il est très bon.
On dit qu'il est bon.
C'est énorme. Alors, Gérard, parce que si Myriam parle pas, elle a pas de micro, donc. On en mange de ça en plat du jour au flamand à midi ou parce que ça fait brasserie le flamand quand même.
Ah oui, bien sûr qu'on mange des plats du jour, on mange pas le jarret aux lentilles régulièrement, mais de temps en temps, ça fait partie des plats du jour. Aussi bien que la choucroute au concours agricole.
Oui, mais ça, oui. Non, mais voilà, la choucroute, ça tu nous la fais plus à part au concours agricole, ça n'existe plus.
Ah oui, faut venir là-bas.
Mais oui. Mais sinon, effectivement, la choucroute, on n'y a plus droit au flamand. Tu le fais plus jamais ici, hein,
Ben non, parce que ça a changé, parce qu'il y a plus, il y a moins de demandes. C'est plus pareil, quoi. Donc
aujourd'hui à midi, qui c'est qui vient manger et qu'est-ce qu'on mange
à midi? Qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui? Il y avait souris d'agneau. Il y avait on fait de la charcuterie de canard. On fait des petits plats préparés. Bon, c'est vrai que la clientèle, c'est entre les commerciaux, un petit peu les jeunes.
Les étudiants, un peu
Ouais, un petit peu. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, des étudiants à Montauban.
Un petit peu.
Au centre-ville, non, ouais. Ils sont tous là-bas, quoi. Ils sont un peu loin, quoi.
Ouais. Mais t'en as un petit peu, j'en vois, moi, des étudiants de l'école.
C'est comment ça s'appelle? Les collégiens.
Non, pas les collégiens. Christophe, aide-moi, s'il te plaît, toi, tu y travailles.
La fac
de.
Universitaire de Tarn-et-Garonne, oui. J'espère qu'ils viennent aux Flamands, ouais, bien sûr.
Un petit peu, bien sûr qu'ils viennent.
Parce que c'est pas très loin.
Oui, après, il y a l'école de commerce aussi.
Voilà, bon, t'as quand même un petit peu ces gens-là. Mais bon, c'est vrai qu'à midi, eux, ils mangent pas beaucoup. Ce qu'ils mangent.
À midi, ils ont les cantines, ouais. Puis. Non, bon, à midi, il y a un mélange de tout. Il y a les commerçants du coin qui viennent manger aussi. Voilà, après, il y a un petit peu de.
Le plat le plus vendu ici, c'est quoi? C'est le steak frites
Le plat le plus vendu, bon.
À midi.
Non, c'est le. En ce moment, c'est des faritas au poulet.
Voilà.
Tu vois, c'est bon, mexicain. Basique. Mexicain.
Et la bière la plus bue?
Ah, la bière la plus bue, il y a la Ocal, hein. Pas... Et puis. Et puis il y a toutes les pressions spéciales qu'on a, quoi. On a 8 bières en pression, donc ça se boit bien, quoi.
Est-ce que la chimée, c'est toujours
Ouais, chimée trappiste, bien sûr.
Faro, chimée, Faro, parce que je les vois là.
C'est quoi cette belle?
La belle pile, c'est la petite sœur de Duvel, c'est une brasserie belge. C'est la bière de soif qu'on appelle. Donc alors, la bière classique, quoi.
Toutes ces bières, on peut les boire, mais elles sont là aussi pour accommoder des plats.
Et ben moi je vais vous faire du mat fin à la bière. C'est quoi le mat fin? Ben le mat fin c'est un plat du Nord. C'est vraiment très simple et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand il fait froid, que ça drache, qu'il pleut,
ça drache.
Ben tu fais un mat fin. Le mat fin c'est quoi? C'est 6 œufs, 50 centilitres de bière blonde, un peu forte. Ils font un truc qui est un peu du nerf. 80 g de farine, 100 g de lardons, 2 oignons, 2 cuillerées à soupe de crème fraîche liquide, une cuillerée à soupe de beurre, 2 gousses d'ail, du persil, du sel et du poivre. Comment qu'on fait? Eh ben on hache fin. Alors grosso modo, le mat fin, c'est une omelette au four. Une omelette aux lardons et aux oignons fait au four. Donc on fait comment? On hache fin les oignons, l'ail et le persil. Pendant ce temps-là, on a préchauffé le four à 180 degrés. On bat les œufs dans un saladier et on y ajoute la farine, la bière, la crème fraîche et le persil, on sale, on poivre, on bat. Pendant ce temps-là, une fois qu'on a fini ça, non, pas pendant ce temps. Pendant ce temps, le four, il préchauffe. Hein. Dans une poêle, on fait fondre le beurre et on y jette les oignons, l'ail et les lardons. On fait revenir jusqu'à ce que ça ait pris une belle coloration, ça sent bon. On arrête le feu. On jette tout ça dans le saladier où on a nos œufs.
Jetez-moi tout ça
dans le saladier dans lequel on a nos œufs battus, etc., etc. On touille un petit peu, on goûte, on rectifie l'assaisonnement. Attention, pas trop de sel parce que les salons sont, les salons, Les salauds sont déjà salés. les lardons sont déjà salés. Les salauds sont déjà lardés. Ça, c'est Pierre Rep qui disait ça. Donc, les lardons sont déjà salés. Donc, salez pas trop. Vous repoivrez quand même. Vous versez le tout dans un plat qui va au four. Et vous mettez au four, donc, à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Et ça vous fait une espèce d'omelette qui a gonflé avec des lardons, des oignons et tout ça. Et vous mangez ça, je peux vous jurer que vraiment, ça cale.
On se croirait au Top Chef, quand même.
À peu près, oui. le mat fin à la bière.
On va faire un tas du jour, alors.
Les salauds sont déjà...
Vous écoutez bien, qu'est-ce qu'on déguste. Et donc, on est toujours accueillis au Flamand pour cette émission. Grégory Robert, on vous a pas beaucoup entendu. Vous êtes, si j'ai bien compris, l'avenir. Vous êtes la suite.
Je suis le prolongement d'une belle histoire.
Jackie Courmont a eu cette idée et a créé la Hocal il y a 14 ans. Il l'a fait vivre jusqu'à maintenant. Vous vous êtes rencontrés il n'y a pas très très longtemps. Vous faites un bout de chemin ensemble, là. Et puis, à un moment, Jackie Courmont, on va lui payer sa retraite. Et vous allez continuer, c'est ça
un peu ça, l'idée c'est de...
On va pas le mettre en bière quand même.
Bah disons que jusque-là, on m'autorise ma retraite à 65 ans et 4 mois, puisque je suis né en 51. Alors si les règles ne changent pas, dans 5 ans, je peux prendre ma retraite.
Vous êtes un vénard. Vous aurez peut-être une retraite.
Enfin,
vous
tu êtes, peux la prendre,
vous
en fait,
êtes un vénard.
Qu'elle te soit payée, ça c'est autre chose.
Alors...
Ah, si je vote bien, j'ai la retraite à 60 ans.
Grégory. Vos idées, vous. Alors déjà, votre parcours, qu'est-ce qui vous emmène finalement sur ce terrain-là, de la binouze?
Alors moi, je suis vraiment novice dans le milieu. J'ai une formation d'ingénieur en production. J'ai travaillé dans l'aéronautique. Rien à voir.
Donc la bière, vous la connaissez, mais au bistrot, comme nous.
Exactement.
Quoi. D'accord.
Comme tout le monde.
Déjà, on a les mêmes bases, c'est bien.
Ça, c'est... bon, il y a 2 ans, je suis parti en famille faire un voyage à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud. 1 an et demi, avec mes 2 enfants et ma femme. Et quand je suis revenu, ben, j'avais envie de changer, j'avais envie de voir autre chose. J'avais aussi l'idée d'avoir ma propre entreprise.
De vivre, quoi. De se réveiller le matin en respirant et en vivant, quoi.
Exactement.
Hein, et, ouais, d'accord. Je vois le genre.
Et je connaissais Jackie déjà depuis quelques temps. Et puis, ça s'est fait comme ça, doucement, tranquillement. Il m'a dit,
D'accord. Et donc là, du coup, vous l'accompagnez. Il vous montre les ficelles de l'entreprise, tout ça. Vous apprenez ce que c'est que brasser une bière.
Voilà.
Vous apprenez les circuits de distribution.
Oui, mais évidemment, j'apprends le métier à Greg, mais... il m'apprend beaucoup de choses en informatique, le site, des choses que je n'utilisais pas
c'est-à-dire
beaucoup.
Il est l'avenir, c'est fini de vendre sur du parchemin, mon cher ami.
Exactement, moi je suis là aussi pour structurer un peu l'entreprise, la dynamiser, apporter des outils pour qu'on puisse se développer un peu et avoir une reconnaissance encore meilleure.
Alors,
dans la région.
La Hocal dans 5 ans, qu'est-ce que c'est?
Dans 5 ans. Ouais. C'est déjà la Hocal, c'est-à-dire qu'elle sera toujours là.
Ouais.
Et ça, c'est déjà bien.
Aujourd'hui, c'est combien de bouteilles ou combien d'hectolitres?
Allez-y.
Environ 60 000 bouteilles et le reste en fût. Ce sont des bouteilles de 50 centilitres.
Hein. D'accord.
Elles sont vendues où? En Tarn-et-Garonne, en région Midi-Pyrénées, à l'étranger. Vous en envoyez en Chine, vous en envoyez dans le Nord, vous en envoyez... C'est quoi le circuit de distribution?
On en envoie en République tchèque.
C'est vrai? Non, mais ça pourrait.
Non, c'est vrai.
Bah ouais, voilà.
Chez les mondiaux de la bière, la Hocal s'est exportée ce week-end en République tchèque. C'est anecdotique aujourd'hui.
Est-ce que demain, c'est ce genre d'ambition? Qu'est-ce que vous avez comme ambition demain?
Non, l'idée, c'est vraiment déjà d'être fort sur la région, de rester d'un point...
D'être comme ici au Flamand, vous allez être à la pression, on peut vous demander à la bouteille, et c'est d'être dans plusieurs bars comme ça, vous y êtes.
Ouais, c'est pas forcément les bars qui sont notre cible prioritaire, on va dire. Mais c'est vrai que on est déjà pas mal représenté en fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir une reconnaissance, d'avoir une notoriété encore plus grande dans la région. Parce qu'on s'est aperçu, notamment, je me rappelle, sur le marché de Noël.
On s'est rencontrés sur la première émission.
Ouais, qu'il y avait pas mal de gens dans le Tarn-et-Garonne qui ne savaient même pas qu'il y avait une bière qui était faite.
Oui, puis il y a de la concurrence, la bière à Thèse, la Ratz, il y a pas mal
de gens. Oui, mais dans le Tarn-et-Garonne, il n'y a que la bière au calme.
Et je vous reprends, le terme concurrence n'est pas du tout vrai. Nous sommes collègues. Franchement,
collègues brasseurs,
et nous essayons de faire vivre une association en Midi-Pyrénées de tous les brasseurs artisans. Et vraiment, bon, c'est pas simple parce qu'on est loin les uns des autres, mais il y a une entente très très forte entre nous.
Mmh. Eh ben voilà. En tout cas, la bière s'appelle La Au Calme. Moi, mon verre est vide, donc j'aimerais bien en avoir un tout petit peu plus. Ah, il en reste là. Merci Gérard. Gérard, comment te dire à quel point je suis heureux,
flatté et honoré
d'être venu ici aujourd'hui faire cette émission parce que c'est vrai, moi il y a 25 ans, j'avais 16 ans, je venais ici, comme il l'a dit en tout début d'émission, avec ma maman, avec mes frères, et on venait boire un coup, parce que il faut se dire un truc, c'est qu'il y a 25 ans, on vivait pas le bistrot comme on le vit aujourd'hui. Le bistrot, c'est pas péjoratif, Gérard, parce que on vivait pas le bar comme on le vit aujourd'hui. Il y a 25 ans en arrière, ici, on venait encore en famille dans les bars. Peut-être comme ça se fait encore un petit peu en Espagne, peut-être comme ça existe encore aujourd'hui un peu en Bretagne ou en Alsace ou au Portugal. Maintenant, tous ces pays étrangers.
On avait besoin du bar à l'époque. On avait besoin parce qu'il n'y avait pas de portable.
Donc, si tu veux, social.
Si tu veux, ouais, on servait. Ouais. C'était le réseau, quoi. Ouais. Et c'est vrai que pourquoi ça a évolué. Parce que il y a le portable, quoi, le téléphone portable. Donc on s'appelle, on se retrouve chez des amis, tout ça. Mais à l'époque, c'était l'endroit, c'était le bistrot, quoi, c'était le bar, quoi. Et c'est vrai qu'on a servi pendant longtemps à tout ça, quoi.
Mais tout à l'heure, je regardais, il y avait un certain nombre de clients qui étaient derrière, et finalement, chacun était devant son verre de bière ou son verre de quelque chose, de sa pizza, et était en discussion avec son smartphone.
Eh ouais.
Et finalement, plus personne ne discute avec personne.
À l'époque où
chacun
je venais ici, il y a une vingtaine d'années, on va dire, eh bien, il y avait, j'étais capable de me pointer ici sur les coups des 16h et de voir passer tout un tas de clientèle en restant assis ici. À 17h, tu voyais les collégiens ou les lycéens qui arrivaient. Et puis, vers les 18h30, ils partaient. Mais à 19h, arrivaient les gens qui faisaient l'apéro. Parce qu'à l'époque, se faisait quelque chose dans les bars qui s'appelait l'apéritif. Donc, on se réunissait. Donc, ici, il y avait aussi des gens qui venaient faire l'apéro. Et puis, jusqu'à 21h. À 21h, c'était encore une autre clientèle qui arrivait, la clientèle de soirée. Et jusqu'à minuit, il y avait encore une autre clientèle qui arrivait jusqu'à 22h et après ça partait. Il y avait
Tu as fait de l'étude psychologique avancée.
Ethnologie.
Quel branleur.
La sociologie et l'ethnologie du flamand.
Il arrivait à 16h et à minuit, il était toujours
dans les années 90.
Tu comprends qu'on le connaît bien, hein.
C'est pour ça que je suis très flatté que tu nous aies reçus aujourd'hui, Gérard.
Merci.
Merci à toi, merci à Myriam pour ce jarret et ses lentilles. Bravo, ouais, merci. Ouais, bravo. Merci à vous.
Pour dire un petit mot quand même.
Oui, tu peux.
Par rapport au centre-ville, toujours, dois dire.
On est sur la fin quand même là.
On est sur la fin, c'est juste dire un petit merci à certains qui sont ouverts en même temps que nous, jusqu'à 2h du matin. Je peux citer Mado avec les Vendanges ou Eric Durémont ou l'ancien Europe qui ferme un peu plus tôt, mais le QG, etc. À dire à tous ces gens-là qui travaillent le soir, c'est bien d'être là, c'est bien de créer une ambiance dans le centre-ville, et en faisant comme ça, on sera plus fort. Voilà, c'est tout.
Merci Gérard. Merci les gars. La semaine prochaine, je pense qu'on sera.
On verra.
On y sera. On verra. On s'en fout, nous. De toute manière.
On est toujours là.
On est toujours là,
on
aime
ça. Et puis on est bien, on est toujours bien reçus.
Ah ouais, et puis.
On sera chez nous.
Oui, sinon on le fera à la maison. Tu nous as ramené des trucs d'Espagne, pareil.
Oui, j'ai ramené quelques petits vins catalans et quelques petits embotits.
On mange ça. Et la semaine prochaine, on se fait ça. Super. Merci Aurélien d'avoir assuré la technique de cette émission. Bravo. Ouais. Et à la semaine prochaine.